bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour
à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Frédéric Sinic.
Bonjour.
Autorité, Eric Emmanuel Schmitt.
Bravo.
Comment allez-vous, Eric Emmanuel?
Mais bien.
Bien, oui, je vois.
À cette heure-là, très bien.
C'est vrai, vous êtes rayonnant. À 11h, vous êtes toujours en forme, c'est l'essentiel. Nous allons évoquer votre livre, Journal d'un amour perdu, également Madame Pilinska et le secret de Chopin. On en avait déjà parlé ensemble, mais c'est vrai que le spectacle se poursuit au théâtre Rive Gauche. C'est pas un seul en scène, hein. Vous êtes quoi, deux?
On est deux.
C'est ça, un homme au piano et vous.
Voilà.
Nicolas Stavy.
Nicolas Stavy est un grand pianiste, un grand soliste. Et quand il faut jouer bien, c'est lui. Quand il faut jouer mal, c'est moi.
Et on va voir l'importance de ce piano que l'on retrouve d'une manière extrêmement émouvante dans votre livre chez Albin Michel. Mais d'abord. C'est bien un peu tard ouvert. Des questions, oui, concernant Eric Emmanuel Schmitt. Il avait un oncle très radin qui faisait quelque chose de particulier quand il arrivait chez lui, tellement il était radin.
Il volait de l'argent.
Non.
Il lui demandait sa tirelire.
Il prenait les pantoufles des gens.
Il récupérait des choses.
Les chaussures.
Il volait des trucs.
Les chaussettes.
Non, pas loin, pas loin. Ne dites rien, Eric Emmanuel. Pardon.
Les croûtons de pain.
Il volait les croquettes.
Les parapluies.
Il arrive chez lui.
Ouais.
Imagine, il rentre dans son immeuble, il arrive chez lui. Qu'est-ce qu'il fait?
Il s'essuie les pieds sur le paillasson dans
l'eau. Exactement.
Ah ouais.
J'étais pas loin, j'étais sur le paillasson.
Bah ouais, t'étais sur les chaussons.
Ah, pour pas user son propre paillasson.
Pour pas user son paillasson.
Pas idiot.
Non, puis il y avait écrit bienvenue sur le paillasson, si tu veux, donc il avait fait. Après, ça s'efface.
En même temps, c'est vrai que c'est tentant quand t'as un paillasson tout propre, tout neuf et que le voisin en a un horrible.
Surtout quand t'as les chaussures dégueulasses.
Pourquoi souiller ton paillasson?
Mais surtout, j'imagine le moment de solitude si tu es en train d'essuyer sur le paillasson du voisin et qu'il ouvre la porte. il avait d'autres signes de radinerie.
En fait, il avait dans une même journée 1000 occasions de jouissance, ne pas payer le bus, etc. En fait, c'était un jouisseur perpétuel.
C'est chouette.
Il entubait la terre entière toute la journée et il était ravi.
Quelle envie d'aménagement de la capitale Eric Emmanuel Schmitt partage-t-il avec Anne Hidalgo?
Plus de voiture.
Plus de voiture, oui.
Non.
Plus de piétons.
Plus de vélo.
Non. Plus de piétons. C'est pas bête.
Plus de parisiens. Plus personne.
C'est pas loin.
Pas de véhicule à moteur.
Les voies sur berge plus dégagées, c'est ça. C'est-à-dire.
Pardon, Frédéric.
Dépolluer la Seine.
Non,
plus de verdure.
Plus de périph.
Exactement, Jérémy. Bien vu.
J'ai un point cette saison.
La disparition du périphérique. Vous trouvez ça abject et pas. Vous voyez pas l'utilité en fait.
Si, je vois très bien l'utilité, mais en même temps, je trouve ça crée une frontière. Je pense en termes de ponts et chaussées, ça doit être assez rationnel tout ça. Mais c'est ce que ça accompagne de limites d'une ville, de frontières d'une ville, de habiter au bord du périphérique, c'est quand même une condamnation, etc., etc. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait être plus harmonieux.
Une promenade verte.
C'est ce qu'ils veulent faire. Sur les 4 voies du périphérique, ils veulent en mettre une uniquement de la verdure, une réservée aux voitures d'urgence et électriques ou covoiturage, je crois.
Ouais.
et les autres à l'arrêt, parce que passer de 4 à 2, ça va être c'est juste impossible. Moi, j'aimais bien l'idée qu'il y avait germé il y a longtemps d'un périphérique enterré. Je me disais, tiens, un tunnel où on sort comme ça de temps en temps.
Ça s'appelle le métro.
Ça existe dans certaines capitales, même pas avec des voitures.
Le ring de Bruxelles, un peu comme ça.
C'est ça.
Mais ça pourrait être aussi recouvert, comme à New York, la ligne verte.
Oui, la ligne verte.
Exact, ouais. Enfin bref, vous vous déplacez comment dans Paris, vous, justement?
Moi, en taxi-moto.
Taxi-moto,
ouais.
D'accord. Pour quelle raison Eric Emmanuel Schmitt s'est retrouvé comédien sur scène pour la première fois?
Parce qu'il
manquait quelqu'un.
Malade.
Exactement. Pour remplacer un comédien.
Je pense que là, il a été plus rapide que moi, mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. Je crois que c'est juste ça.
Il y avait l'embouteillage du périph.
J'ai un peu bugué, là. Mais bon, j'y étais. J'étais avec vous. J'étais
T'es encore à Clairefontaine, toi, c'est ça?
Ouais, je suis encore avec les bleus.
Manquer les consoles.
Donc, un comédien défaillant. Eric Emmanuel Schmitt, ce comédien était connu d'abord?
C'est Francis Lalanne.
D'accord.
Ah oui. Qui est un bon comédien.
Je me demandais s'il était connu.
Oh,
ça va un peu blaguer.
Oh, Vina.
C'est méchant. Il est souvent absent, Francis Lalanne.
Intellectuellement,
en fait.
Il est malade.
Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez de vous moquer, Eric.
Il n'était pas malade du tout. Il avait signé des galas de chansons alors qu'il devait jouer Monsieur Ibrahim. Et donc, il y avait plein de soirs qui faisaient des trous. Et on m'a dit, est-ce que tu veux le remplacer? Et je me suis entendu dire oui. Et j'ai eu 3 jours.
Sans hésiter ou ça un tout petit peu.
C'est sorti tout seul.
ça a piqué la gorge,
mais
c'est ça.
Mais c'est souvent ça, vous savez. On se surprend à avoir envie de quelque chose, on ne savait même pas qu'on en avait envie. Et donc j'ai eu 3 jours pour apprendre le texte.
C'est de la fausse modestie. C'est
de la fausse timidité. Je ne savais pas que j'en avais. Alors maintenant, je ne lâcherai plus le rôle. D'ailleurs, il ne l'a plus joué après.
C'est fini.
Comme je connais bien l'auteur.
C'est la fin de beaucoup de choses.
Voilà. Mais. Et puis, voilà, 3 jours pour apprendre le texte, 4 jours de répétition avec la metteuse en scène Anne Bourgeois, et puis le jeudi, je suis passé devant le public en vomissant largement en public, en coulisses.
Juste révélateur. Hein.
Mais le public a été formidable.
Quel chef d'État étranger a rencontré Eric Emmanuel Schmitt?
Obama.
Gorbatchev.
Dalai Lama, non?
Alors, c'est un chef d'État peu fréquentable.
Kim Jong-un,
si je peux me permettre.
Bachar el-Assad.
Non.
Nicolas Sarkozy.
Xi Jinping.
Non.
Saddam Hussein.
Poutine.
Il est encore vivant.
Kadhafi.
Non. Comment il s'appelle?
C'est pas Poutine.
Omar Bongo.
Non.
Bolsonaro.
L'Ukrainien, là.
Non, on n'avait pas cherché trop loin de la France.
Boris Johnson, non.
Il n'était pas à l'époque.
Orban.
Je sais pas quand c'était, d'ailleurs, c'était exactement.
Erdogan.
C'était il y a 2 ans, c'est ça?
Oh non, c'était plus en 2002 ou 2003. Mais il était déjà au pouvoir.
Une baby shower.
Et c'était en Allemagne. Je recevais un prix, le prix Kadrige, qui est un prix humaniste. Et donc il y avait une immense cérémonie avec plein de prix Nobel, des chefs d'État, etc., etc. Et j'ai rencontré Erdogan et c'est la première fois de ma vie que j'ai senti comme ça une sorte de magnétisme noir. Il m'a fait peur. J'ai senti une espèce de puissance.
Alors,
côté obscur de la force.
Exactement.
Mais c'était quoi? C'était magnétique, vous voulez dire?
Oui, c'est ça. Ouais. Cet homme est impressionnant. Cet homme fait peur. Cet homme, on sent que tout est possible.
Vous ressentez pas ça quand vous regardez?
c'est pas une analyse.
Vas-y, formule.
Nagui.
Je pourrais faire une analyse politique à côté. Là, je me contente de pure sensation physique quand on rencontre quelqu'un. L'espèce d'aura que peuvent avoir les gens.
Négative.
Là, c'était une aura noire, extrêmement négative.
Lui avez-vous serré la main?
Oui, je lui ai serré la main. À l'époque, en plus, c'était l'époque où l'Allemagne faisait beaucoup pour que la Turquie rentre dans l'Europe. C'était l'époque où on aimait beaucoup Erdogan et où on attendait beaucoup des choses. Il n'avait pas encore révélé tout son goût du pouvoir qu'il a manifesté par la suite. Mais j'ai tremblé.
Ouais. Non, mais moi, je me pose toujours la question pour les personnalités publiques, comme ça, quand elles se retrouvent face à quelqu'un de, soit de pas fréquentable, soit tout simplement quelqu'un qu'il ou elle n'aime pas, est-ce qu'on se sent obligé de serrer la main si on n'a pas envie de serrer la main de quelqu'un que l'on n'a pas en haute estime?
Souvent, on est bien aux toilettes. non, mais moi, il m'est arrivé de fuir.
De vous absenter d'une salle pour ne pas avoir à serrer la main de quelqu'un que vous ne vouliez pas croiser.
Est-ce qu'il y a un politique français dont vous ne serrez pas la main? Que ça pose aussi question.
Si vous voulez, vous pouvez aller aux toilettes.
où sont-elles?
Il n'y a aucun problème. Hein.
Oui, non, j'aime pas les extrémismes, j'aime pas les démagos, j'aime pas les gens qui ont des solutions simples pour des problèmes complexes.
Ça fait beaucoup de monde, hein.
Je trouve que c'est très malhonnête. C'est très malhonnête.
Coupez-vous la main, c'est ça?
Oui, c'est ça, d'emblée. Non.
Il est passé en vacances avec Bayrou, c'est tout.
Non, mais ça doit être délicat, ça veut dire qu'il faut être averti en amont de qui est présent, vous renseigner.
Comme vous dites, c'est très délicat parce que tout homme est respectable et toute femme est respectable. Donc, en tant que personne, je pourrais très bien dire bonjour. Mais je sais qu'il s'agit de plus que ça. Et il y a généralement des photographes autour. Des gens qui vont s'empresser de commenter, parce qu'on nous fait toujours même dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Donc, si on ouvre la voie à ça, c'est terrible. Donc, d'un côté, oui, moi, je dirais bonjour à tout le monde. Dans la vie, je dirais bonjour à un ultra-fasciste. C'est pas un problème. Mais en termes politiques, des gens qui font commerce d'un discours mensonger, qui simplifient le réel et qui divisent dans leur propre intérêt et au mépris de la communauté ou de la nation, non. Je peux pas aller avec eux.
Surtout qu'on ne retiendra peut-être qu'une poignée de main, alors qu'on va oublier le contexte.
Oui.
On sort la photo en disant le meilleur ami d'Eric Emmanuel Schmitt. Erdogan, oui.
On peut, sans faire de parallèle entre tout ce qui vient d'être dit, revenir à l'actualité littéraire et autour du Goncourt, puisque il y a de moi que ça a été écarté de la liste. Vous en pensez quoi?
Je pense que cette année, il a un peu, je dirais, occulté la rentrée littéraire par les scandales qu'il y a autour de son livre. C'est un écrivain, il n'y a aucun doute, mais c'est bien qu'il passe son tour.
Et faut-il distinguer l'auteur de son œuvre? L'artiste, même, pour parler en règle générale.
En tant qu'écrivain, j'ai beaucoup de mal à penser ça. Je crois qu'une vigne de Bordeaux fait du Bordeaux, une vigne de Beaujolais fait du Beaujolais. Je sais que mes livres sont l'incarnation littéraire de ce que je suis comme personne. C'est très délicat ce que vous me dites, parce que parfois je suis obligé de reconnaître qu'il y a des écrivains absolument sublimes, par exemple Céline, par exemple Drieu La Rochelle, que j'aime lire profondément. Je suis épaté par leur génie, par leur finesse, mais je ne leur aurais pas serré la main. Ça, on est bien d'accord. Donc, il y a quand même ce truc absolument étrange, c'est-à-dire que parfois, certains êtres donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui n'est peut-être d'ailleurs pas... C'est-à-dire que la personne est en dessous de l'œuvre.
Ça veut dire qu'il faut laisser
Rousseau, par exemple.
Il faut laisser le temps aussi. Il faut laisser le temps faire son travail et se dire que on reconnaîtra l'œuvre si c'est une œuvre remarquable dans plusieurs années. Mais au moment où l'actualité est trop brûlante, faut pas y toucher.
C'est pas par rapport à l'ici maintenant.
Vous sortir du problème du Goncourt ou de Yann Moix en particulier. Non, mais il y a d'autres exemples dans l'actualité.
Alors les toilettes, c'est première porte à droite et deuxième à gauche. Je vous le dis tout de suite comme ça, vous savez.
En musique, la question s'est posée avec Bertrand Cantat, qui est un artiste, qui a Noir Désir, mais qui a tué une femme avec ses poings. La question se pose sur Roman Polanski avec les affaires, sur Woody Allen.
Patrick Sabatier.
Nagui bientôt.
Et là, on revient à la question, faut-il distinguer l'homme ou la femme de l'artiste? Il se trouve qu'il n'y a que des hommes d'ailleurs dans cette liste.
Comme part de paradis.
Ça va être plus facile de répondre parce que ça relève de la problématique du pardon. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que pardonner à un être? C'est pas dire tu n'as pas fait ça, c'est de lui dire je ne te réduis pas à ce que tu as fait, à une des choses que tu as fait. Et on ne peut pas réduire un être à une mauvaise action qu'il a faite. Tout être est capable de bien comme de mal. On est d'ailleurs tous en danger dans la seconde qui suit de faire quelque chose de bien.
Le droit à la deuxième chance et au pardon.
Ah oui, ça me paraît absolument
essentiel. Pourquoi ce droit ne marche pas pour Yann Moix?
On passe son tour. Cette année.
Moi, je peux juste entendre quelque chose, c'est-à-dire que on a été pardonné ou on a purgé sa peine de prison. Après, je trouve ça un peu bizarre d'être à la une des magazines. Et même chose pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment, il a écrit ce qu'il a écrit, il a eu les amitiés qu'il a eues jusqu'à assez récemment. Finalement, on parle des préfaces de textes négationnistes. Ouais. C'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 2013. Quelques années, 2013. Il demande pardon, très bien. On peut aussi imaginer qui n'occupe plus le devant de la scène.
C'est un peu ça.
Voilà.
Je trouve que ça a occulté la rentrée littéraire. Il y a plein d'auteurs qui ont énormément de talent, dont on n'a pas parlé. Et nous, on a fait une liste disant parlons des gens qui ont du talent et qui n'ont pas eu l'éclairage sur eux, un éclairage pas forcément flatteur d'ailleurs.
Non mais là, vous êtes d'accord, vous ne jugez pas l'œuvre, vous jugez ce qui se passe autour de l'œuvre.
Vous avez raison, c'est le moment. On voudrait nettoyer le moment.
D'accord. Allez, dernière question. Pourquoi Eric Emmanuel Schmitt a été reçu à 17 ans à l'Élysée?
Parce que VGE, il avait participé au concours général, un truc comme ça. Hein.
Ça
dans le bouquin, c'est aussi dans le livre.
Il a retrouvé les mots.
Ouais, t'as vu, ça fusait là.
Ça marche là.
On a dit VGE. Hein.
Ouais. Bon, alors.
Oui, non, c'est les câbles de VGE, c'est pour les VGE.
Là, on est conscient, entre guillemets, d'abord de sa réussite scolaire. malgré ce que l'on lit aussi dans votre livre, en fait, le regard de papa qui,
c'est
dur.
C'est ce que je raconte dans mon livre. Mon père a toujours porté un regard d'inquiétude, d'angoisse, voire de défiance vis-à-vis de moi. Pas parce qu'il était incapable d'amour, au contraire, c'était un homme très aimant. Il avait l'amour maladroit, mais il était aimant. Mais en fait, quand je suis né...
C'est ce que dit ma femme aussi.
quand je suis né, j'avais un bec de lièvre. Et donc, mon père, qui était kinésithérapeute, a été pris de panique parce qu'il s'est dit, est-ce que ça va s'accompagner de retard mental, de troubles du comportement, parce que c'est parfois le cas. Mmh. Et donc, il m'a saisi sur la table d'accouchement, pas du tout pour m'embrasser et crier mon fils.
Pour vous tester.
Mais oui, pour tester mes réflexes. Et ça a été le départ de nos rapports. Et je pense que chacun de nous...
Ça a faussé pendant...
On a une histoire avec nos parents qui commence à la première minute. Ouais. Ma mère m'a pris dans ses bras, mon
Sauf
fils.
Que ça, vous ne le saviez pas, pardon, quand vous étiez bébé. Vous pouvez pas avoir la mémoire.
J'ai jamais supporté...
Non, c'est vrai.
Si, bien sûr. J'ai jamais supporté que mon père me touche, parce qu'en fait, il ne m'embrassait pas, il m'auscultait. Vous voyez? Et donc, ça a duré, après toute ma scolarité, il voulait toujours vérifier que j'étais pas débile, que j'étais pas débile. En même temps, il me stimulait, hein, c'était peut-être bien. Et donc, quand je revenais avec des très bons bulletins, etc., il disait, c'est les ravages de l'après-1968.
Donc, les profs étaient laxistes.
Voilà, on note n'importe comment. C'est le chouchou de la maîtresse.
Ouais. Il mettait en doute tout le temps vos capacités.
Ça,
et là, par exemple, à 17 ans.
Et là, à 17 ans, là, il s'est un peu calmé. Puisque là, quand même, je suis reçu par le président de la République à l'Élysée. Et moi-même, ça m'a un peu apaisé parce que j'ai quand même fini par intérioriser l'inquiétude de mon père. Je me disais, mais oui, je suis peut-être débile et je m'en rends pas compte parce que on m'a mis dans une institution pour débile. Alors je suis moins débile d'entre les débiles. Enfin, vraiment, je pensais ça, quoi. J'avais.
Alors tout ça, vous en parlez, vous l'écrivez dans le journal d'un amour perdu chez Albin Michel, qui ouvre sur cette phrase "Aujourd'hui, maman est morte", qui nous fait évidemment penser à Camus immédiatement. Ce clin d'œil n'est pas naïf, même si cette phrase revient beaucoup, souvent, comme si vous aviez à l'écrire pour vous en convaincre.
Oh non, pas m'en convaincre, mais elle résume tout le livre. La première phrase, c'est « Maman est morte ce matin, et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine ». Oui, on pense à l'étranger, mais moi j'écris pas à l'étranger, j'écris le familier. D'ailleurs, Camus n'était pas le personnage de l'étranger, puisque lui-même adorait sa mère et a écrit des pages magnifiques sur la mère. Mmh. Et voilà, moi, ce que je voulais dire, je voulais pas. Ça s'appelle Journal d'un amour perdu, mais ça pourrait être Journal d'un amour éperdu, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était une personne formidable. Et d'ailleurs, quand elle est partie, c'est pas une mère qui m'a manqué, c'est elle. Plusieurs mois à me rendre compte que, oui, j'avais aussi perdu une mère, parce que le rapport au temps change quand on n'est plus, entre guillemets, protégé par la génération précédente. Mais j'ai d'abord perdu une personne.
Tout votre livre est autour de la mort, et pas uniquement la mort de votre maman, il y a aussi la mort de votre papa, il y a votre propre mort qui est aussi envisagée à un moment, une envie suicidaire, il y a la mort d'animaux qui vous sont chers, il y a l'angoisse de la mort de l'une de vos filles, Colombe.
Belle-fille,
pardon, Colombe, si ma mémoire est bonne. Donc cette mort qui plane à tous les niveaux, à tous les degrés, vous avez toujours été confronté à la mort, ou ça a été finalement le décès de votre maman a été un déclic supplémentaire et un regard différent depuis 2 ans et demi sur la mort?
Non.
Ça a toujours été le même rapport.
J'ai toujours une grande conscience de la mortalité. Les anciens disaient se souvenir qu'on est mortel. Moi, je mets ça en termes modernes, se souvenir qu'on est vivant. C'est-à-dire qu'on est fragile. Et toute ma morale, d'ailleurs, vient du sentiment que j'ai de la fragilité de chacun de nous. Moi, je peux pas me mettre en colère contre quelqu'un parce que je sais qu'il est mortel comme moi. Alors, on va pas se croire non plus au-dessus de la fragilité. Je trouve que la fragilité nous rassemble. La fragilité nous rend fraternels. La force qu'on s'attribue ou qu'on se croit souvent nous divise et nous oppose. Donc je suis un grand partisan de la fragilité. Je trouve qu'on puise de la force, mais la bonne force dans la fragilité. Donc c'est mon rapport à la vie qui a changé, puisque mon rapport à la mort qui a changé avec la disparition de ma mère.
Paradoxalement, c'est un livre assez joyeux en réalité. Oui. Et votre ambition, c'est de narrer les faits, vous le dites, narrer cette mort, alors que vous êtes auteur, que vous inventez des histoires, souvent de très belles histoires, que vous mettez un peu de fantaisie et d'amour en fait dans le réel. Tout d'un coup, vous vous collez au réel et en même temps, je trouve que vous parvenez tout de suite à faire de votre mère quasiment un personnage de roman, parce que je crois que les ingrédients sont là, qu'il y a tout un tas de signes, de faisceaux, d'éléments que vous relatez pour vous relier à votre mère dans l'au-delà. Oui. Ça aussi, c'était une façon aussi quoi, de transcrire votre mère comme un personnage, de le donner à la créer, parce que vous créez une créature aussi là.
Et de la refaire vivre.
Pense qu'effectivement, le jour où elle est morte, je me suis mis à écrire énormément dans mon journal, alors que, je vous dis, c'était sporadique. Et parce qu'en fait, je crois que j'ai qu'un seul pouvoir, moi, dans la vie, c'est de donner la vie par les mots. Mm-hmm. Et alors, je voulais lui redonner la vie par les mots. Donc, j'avais besoin d'écrire sur elle pour qu'elle vive un peu.
Et aussi pour passer le traumatisme. Vous dites que voilà, le silence entretient le traumatisme. L'individu ne dépasse le traumatisme que lorsqu'il verbalise.
Oui.
C'était ça la phrase du congrès psy en Suisse.
Exactement. J'ai écrit ce journal pour moi au départ, et puis au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que ce trajet de vie qui paraissait totalement erratique était en fait un chemin, ce qu'on appelle le deuil. Et quand j'ai compris que j'avais accompli un chemin, c'est-à-dire que j'avais affronté l'extrême tristesse, puis qu'après j'avais pu dépasser d'abord de manière un peu discontinue, puis après de manière plus continue l'extrême tristesse, je me suis dit, je vais témoigner, je vais écrire un livre sur ce chemin qu'est le deuil, puisque ça nous regarde.
C'est ça, mais pourquoi avoir mis tous les deuils dans le même livre?
Parce qu'il y en a tout le temps plein dans la
oui,
vie.
Oui, j'entends.
Si on aime les êtres, on a tout le temps des occasions de
pleurer. Au début, je me suis dit, ok, il va, c'est le cas, votre maman est très présente tout au long du livre, mais d'un coup, la mort est à tous les coins de rue. Quoi.
Mais parce que, par exemple, quand je raconte, bon, les chiens ont une grande importance dans ma vie, j'ai toujours vécu avec des animaux, mais quand je...
C'est même les premiers qui vous consolent.
Oui.
C'est les premiers qui viennent.
C'est extraordinaire, l'empathie absolue de...
Fouki.
Oui, Fouki, Daphné,
elle
Lulu.
Un peu moins.
Voilà. Oui, elle était odieuse. C'est pour ça que je l'adorais. C'était un chien chat.
On parle du chien. Voilà.
Mais j'aime bien les garces parce que je me dis que la vie est compliquée pour les garces. Alors ça me fascine parce que moi je suis facile à vivre, donc j'adore les gens compliqués. Et
c'est le discours d'un homme compliqué.
Vous croyez?
Ah, je pense.
Non, je pense exactement l'inverse. Mais bon.
Faites attention, vous allez perdre le fil, vous allez redemander la question.
Donc, oui, les chiens qui ont une grande importance dans ma vie et qui d'ailleurs manifestent une empathie extraordinaire quand j'ai du chagrin, puisqu'ils me lèchent de partout pour essayer de faire fuir le chagrin.
Pourquoi mettre tous les deuils comme
parce
ça?
Parce que chaque événement de la vie rouvre des blessures. Je veux dire, quand une de mes chiennes meurt, Fouki, tout d'un coup, je suis à nu, la blessure est rouverte, je croyais avoir fait un chemin et je repars en arrière. Et puis tout d'un coup, ma belle-fille est en danger vital et doit subir une intervention très grave des poumons. C'est pareil, j'ai l'impression que je
regrette. Elle attend même de savoir si elle va pouvoir être sauvée par l'opération.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, on a souvent l'impression dans la vie que c'est la mort qui est en train de gagner ou que c'est le négatif qui est en train de gagner. Et si je raconte le négatif, c'est pas pour raconter le négatif. C'est pour dire on arrive toujours à dépasser le négatif. Mmh. Et malgré tous ces rappels du malheur, de la douleur, la vie continue et il peut y avoir de la lumière.
Je voulais juste dire que Eric Emmanuel n'est pas compliqué, il est paradoxal. Par exemple, au cœur du livre, il y a « Je ne veux pas que le manque vienne à manquer ». Parfois, je sens que l'unique consolation qui me reste, c'est d'être inconsolable. Parce que dans le livre aussi, ce qui est formidable, il y a des aphorismes dans une tradition littéraire illustre.
C'est vrai que
ils sont très profonds et très prenants.
C'est vrai que dans la forme, il y a le côté roman, et puis de temps en temps, il y a des phrases comme ça, des pensées qui arrivent d'une manière extrêmement brève et que chacun peut s'approprier.
Voilà,
et vivre à sa mesure.
Ouais, c'est très décousu, quoi.
Attendez que ma joie revienne.
Oui.
Ça pouvait être le titre aussi.
J'ai failli l'appeler comme ça. Cette chanson de Barbara, j'aime Barbara, mais j'aime particulièrement cette chanson. Elle m'a toujours bouleversé. Maintenant, je comprends pourquoi elle me bouleversait. Je le savais à l'avance. C'est une chanson de Barbara qui dit à un homme, je pourrais vous aimer, mais je peux pas encore parce que je suis toujours dans l'amour d'avant. Et attendez que ma joie revienne pour que je vous ouvre les bras. Et j'ai vécu pendant 2 ans avec l'idée que la joie était toujours là, mais qu'elle allait mettre du temps à revenir.
C'est aussi une sorte de carpe diem, ce livre. Oui, on se dit, il faut vraiment dévorer chaque seconde pendant qu'elle est là et pendant qu'elle est positive. vive et
pas perdre une seconde.
Et pas perdre une seconde. Journal d'un amour perdu chez Albin Michel, Éric Emmanuel Schmitt. Quelques scoops, quelques horreurs peut-être révélées par François. François, maintenant dans la
tournée. Salut les amis. Salut Éric Emmanuel. Une fois de plus, Nagui, en commentant comme tu viens de le faire, ce journal d'un amour perdu, tu m'as mis les poils. Et moi aussi, j'ai été touché au plus profond par ce livre que j'ai lu avec attention, admiration, émotion, palpitation et sans érection. Comme tu me l'as demandé, Nagui, je suis ici, soyons sérieux, je suis ici pour faire des révélations qui dérangent, dénoncer des complots, des conspirations, tout ce qui se trame dans l'ombre et qu'on nous dissimule. Par conséquent, je ne pouvais que kiffer le journal d'un amour perdu, car plus encore que dans ses livres précédents, Éric Emmanuel Schmitt est taraudé, travaillé, rongé par une vérité qu'on lui aurait cachée, celle du secret de sa naissance. Qui était vraiment son géniteur? Son papa ou un certain Bobos, danseur folklorique qui faisait virevolter sa maman? Bobos que tu décris, Éric Emmanuel, page 145. Agile et vigoureux à la fois, attentif, passionné, dévoué, solide, si viril. Moi aussi, quand je faisais de la danse dans mon colon Mulburn, on me surnommait Bobos, mais c'est une autre histoire. Donc, si j'ai adoré ton livre, cher Éric Emmanuel, c'est parce que, comme toi, j'ai suspecté mon origine. Comme toi, j'ai eu la conviction, je te cite encore page 141, que mon père n'était pas mon père. Hélas, cette question me torture encore aujourd'hui. De même que les chiens ne font pas des chats, ce ne doit pas être un hasard si je suis chanteur et si je m'appelle François. François, mais qui est mon véritable père? Claude François? François Valéry? Frédéric François? François Feldman? Jean-Pierre François? François Hardy? Ça me rend dingue! Faudrait que je le fasse tous subir, enfin ceux qui peuvent, détestent ADN. Mais j'aimerais bien savoir qui est mon père. Ma mère, mes frères et mes sœurs. Ça serait le bonheur. Oui.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Et c'est vrai qu'Albert a raison. Il y a cette histoire dans l'histoire, dans ce journal d'un amour perdu. Oui. Voilà.
Dans les carnets de sa mère.
Exactement. Est-ce qu'il y a un secret de famille quelque part? Parce qu'elle note et elle n'écrivait que en votre présence. Oui. Elle n'écrivait pas lorsque.
C'était un peu chouchou quand même.
Elle était ailleurs.
Non. Elle a développé une relation aussi magnifique avec ma sœur.
Ouais. Mais cette quête et cette enquête que vous allez mener après son décès, jusqu'à fouiller dans ses affaires, peut-être même dans le dos de votre sœur,
interroger des amis,
exactement.
De la famille.
Riclin, la rencontre avec ce couple, Riclin, tout est vrai.
Oui, oui.
Il n'y a pas une part de fiction quand même dans ce journal d'un amour.
J'ai changé le nom d'Éric Lynn. Mais non, tout est... Vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a toujours après des gens qui vous disent « Je voudrais vous faire des révélations sur machin et sur truc. » C'est insupportable déjà, cette idée qu'on va nous révéler quelque chose sur nos intimes, que des inconnus sachent quelque chose de notre intimité.
Que nous, on ne sait pas.
Et que nous, on ne sait pas. Déjà, c'est une idée qui me répulse. Mais moi, j'avais envie de savoir quelque chose. J'attendais depuis toujours que ma mère, un jour, ait une grande conversation avec moi pour m'expliquer entre guillemets le secret de ma naissance.
Parce que vous avez, c'est vrai, comme l'a dit Albert, cette suspicion qui est présente dans le roman, oui. qu'elle soit physique, comparaison entre le Bobos qui a vraiment qui a vraiment existé et qui physiquement vous ressemblait, et là vous partez dans une espèce de parano.
Parce que mon père, il ressemblait à Paul Newman jeune, alors on voit pas le rapport avec moi, quoi. Et il avait vraiment il était blond, aux yeux bleus, un physique très aryen, bon. Chercher l'erreur.
Et il faisait des vannes aussi sur l'ADN, sur l'hérédité.
Et en plus, voilà, il y avait
les mystères de la génétique.
Il disait toujours, les mystères de la génétique en me regardant. Donc, franchement,
ça a été
extrêmement troublant.
Ça, plus le côté « je vous ausculte tout le temps »,
oui.
J'ai des trucs.
Et le fait qu'entre nous, l'amour n'était pas facile, quoi. Il n'y avait rien de spontané. Moi, mon amour pour mon père a toujours été très volontaire, très maîtrisé. C'était presque un devoir d'amour, alors que l'amour que je rendais à ma mère était... Voilà, il coulait.
Oui, parce que lui passait par l'autorité, elle passait par la douceur.
Oui, ça, c'était la grande erreur. Moi, on peut obtenir de moi tout ce qu'on veut si on me le.
Pas en l'imposant.
Si on est doux et gentil. Si on me donne un ordre, non.
Je vais vous le dire doucement et gentiment, oui, mais je vous l'impose quand même. Voici Jérémy Crédit.
Ouais, les amis. Cette semaine, c'était la rentrée et qui dit rentrée dit apéro. Ah. Eh oui, car comme le dit une sage, tous les prétextes sont bons pour se mettre une race. Leïla Kabé. Mais qui dit apéro dit parfois noix de cajou. Ouais. Et moi, la noix de cajou, je dis.
Stop.
Faut arrêter la noix de cajou. Voilà. Bon, personnellement,
déjà, la solitude de
j'ai jamais
la solitude du Queen.
Oui. Non, attends, j'ai jamais compris le principe de la noix de cajou. Hein, quant à la forme d'une petite banane, tu devrais avoir le goût d'une petite banane. Quand tu ressembles à un petit boomerang, reviens quand on te lance. Voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit dans cette émission, j'ai mes combats. Mais pourquoi arrêter la noix de cage, me direz-vous? Je dis noix de cage, on se connaît un petit peu mal.
Intime.
Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, premier producteur mondial de noix de cage, des milliers de femmes se brûlent les doigts à l'acide pour qu'on puisse manger ces cacahuètes en forme de tomate.
Si. C'est quoi ce truc?
Bon, elles le font pas sciemment. Elles sont pas devant un bac d'acide en disant pour l'apéro de Michel et Jean-Louis, tcha, Ganesh. Non, non. En fait, il y a des substances caustiques.
Dans la coque.
Si, dans la cosse de noix de cajou, il y a deux substances caustiques. Le cardol, à ne pas confondre avec le cabrol, qui est un vieux monsieur qui donne la météo sur une radio concurrente. Hein. C'est un peu.
Mais qui est pas caustique.
Voilà, c'est un peu Marie-Pierre Planchon, mais avec une prostate. Et donc, il y a le cardol et l'acide anacardique. Ces deux substances ont pour effet de brûler la peau. D'où peut-être le terme grillé qui apparaît sur certains paquets de noix de cajou dans nos supermarchés.
Oh, non.
Toutes les décortiqueuses ont les doigts noirs, hein, comme quand on se sent assez téméraire pour n'utiliser qu'une seule feuille de papier toilette, mais qu'elle craque, hein, Daniel. Sauf que nous, on se lave les mains.
Tout se saura un jour.
Nous, on se lave les mains et ça part avec la honte. Non. Elles ont les doigts complètement cramés. Et à ce sujet, Patrick Brulé chantait qui a le doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt? Voilà. Comme ça. Merci. 60% de la production de noix de cage vient d'Inde. L'Inde, hein, ce pays où on laisse mutiler les femmes et où on vénère les vaches. Ici, on fait l'inverse. Hein. Il n'y a pas encore de femmes à hublot en Inde. Vous imaginez la vie des Indiennes qui ont les doigts calcinés, hein, obligées de manger leur nan fromage en picorant. Une Indienne au boulot qui prépare ton apéro. Picotis, picota, encore un doigt qui s'en va.
Mais quelle horreur.
On m'a demandé de chanter, je chante. Heureusement, il y a une compensation, évidemment. Hein. Ces travailleuses à risque sont très bien payées. Je déconne. Ouais. Non, 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 elles sont exploitées. Elles gagnent entre 35 centimes et 6 euros par jour. Hein. Elles peuvent même pas s'acheter un paquet de noix de cajou. Ou un paquet de clubs. Bon, tu me diras, elles sucent leurs doigts et ça suffit. En 2013, déjà, les ONG demandaient un règlement noix de cajou pour protéger les travailleuses. On leur a dit, protéger les travailleuses d'où? Bah, d'Inde. Voilà. Vous dites, mais pourquoi elles portent pas de gants, les pushminas? Eh bien, parce qu'elles perdent en précision et elles sont payées au poids de noix. Payées au poids! Payées au poids! Payées au poids de noix! Allez, casse-toi Patrick. Et tout ça, à cause de qui? Eh bien, des véganes, hein, ces gens fourbes qui vouent un culte à Nagui. Pour eux, Nagui, c'est comme un yak en Inde. Bon, il n'y a pas que, hein, tous les occidentaux qui veulent manger LC sont aussi fautifs, mais je préfère taper sur les véganes parce qu'en général, ils sont frêles. Si vous ne pouvez pas vous passer de noix de cage, privilégiez les produits labellisés, hein, qui promettent un travail éthique. Travail éthique en Inde, ça veut dire qu'il y a un évier pour se laver les mains. Enfin, les paumes, là, en l'occurrence. Je terminerai cette chronique avec Pushpa, une décortiqueuse qui porte très bien son nom, puisqu'elle ne peut plus rien pousser. Pushpa, qui était guitariste avant de rentrer à l'usine.
Ah,
on
dommage.
Écoute un extrait de Pushpa à la guitare. Voilà, c'est bonne émission, les amis.
Merci, Jérémy Gradville.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Vachement bon, les imitations elles sont impressionnantes.
Et c'est vrai, et tout ça est vrai.
C'est horrible.
Oui.
Mais on peut plus manger de noix de cajou sans se sentir coupable de.
Mais ça va, elles habitent loin.
Mais arrête, ouais, c'est ça, ouais, c'est loin des yeux, loin du cœur. La bande originale, on peut se dire que la bande originale de votre vie, évidemment, c'est Chopin, c'est Mozart, c'est le piano. Je sais pas d'ailleurs si vous voulez que l'on raconte l'histoire du piano ou pas, ou s'il faut le laisser au lecteur du journal d'un amour perdu, parce que moi c'est un moment extrêmement fort, extrêmement émouvant.
Donc il faut le laisser.
D'accord, ok. Vous comprendrez tout du piano d'Eric Emmanuel Schmitt.
Il est au théâtre Rive Gauche, le piano.
C'est ce piano-là dont vous parlez qui est au théâtre Rive Gauche.
Oui, je l'ai apporté.
Mise en scène par Pascal Faber, je n'ai pas cité tout à l'heure, avec Nicolas Stavy au piano. Là, on va parler de la musique que vous écoutiez dans les années 60, en famille. Ça, c'est la musique que vous écoutiez à Lyon, à la maison.
La Dolce Vita, ouais.
Les années 60, c'était quand même une époque comme ça, heureuse. Est-ce que c'est parce que c'était mon enfance?
Est-ce que vous tombez dans le « c'était mieux avant » là? Vous commencez là, faites attention.
Non, mais moi, j'évoque mon enfance heureuse.
Oui. C'était bien déjà.
À Lyon, dont vous, que vous qualifiez de Lyon, de ville natale, et donc vous dites ville natale, ville maternelle.
Maternelle, oui. Oui.
Et vous naissez, voilà, vous le racontez un peu dans le livre, dans un environnement hyper sportif, en fait. Parce que votre père est kiné, mais était boxeur, a fait du judo. Oui. Votre mère était championne d'athlée.
Oui, championne de France d'athlétisme, un record qui a mis 20 ans à être battu.
Et vous, à côté de ça, le sport?
Non, pas tellement, non. Non, mes parents n'ont fait pour moi, vous savez, oui. Les parents boivent, les enfants trinquent.
C'est une façon de se distinguer aussi dans la fratrie, de se dire quoi, que moi j'appartiens à autre chose.
Ben en fait, oui, tous mes amis voulaient avoir mes parents comme parents, parce qu'ils étaient tout le temps en train de partir, de faire du... Le ski, ça j'adore. Mais, et la randonnée, la marche, ça j'aime beaucoup. Mais le reste, non, moi je disais à mes parents, mais foutez-moi la paix, laissez-moi dans ma chambre, laissez-moi lire, laissez-moi faire du piano, enfin, le fils indigne.
Mais il y avait des jambes. Théâtre,
ouais. Il y avait des jambes de maman.
Ouais, elle avait des jambes absolument sublimes. Les hommes se retournaient sur ses jambes. Moi, j'étais fier, j'étais juste à la hauteur de ses jambes. Mm-hmm. Et je voyais ma mère provoquer du désir comme ça avec ses jambes. Ça, c'est un des grands souvenirs d'enfance.
Si le sport, c'était pas votre truc, en revanche, la révélation, c'est Cyrano, oui. Sur scène.
Oui.
Et puis, c'est Jean Marais.
Oui. Et ma mère. Nous avait posé au théâtre, ma sœur et moi. Elle avait pas acheté troisième place parce que je crois qu'elle avait pas d'argent.
Moyens, ouais.
Ça, je l'ai compris après. Elle a voulu que ses enfants voient Cyrano de Bergerac avec Jean Marais.
Vous étiez devant, en plus.
Oui, au premier rang. Ouais. Et puis, à la sortie, elle nous retrouve. Moi, j'étais bouleversé, bien sûr.
Vous aviez pleuré?
Ah ben, j'avais pleuré, mais comme jamais. En plus, c'était des larmes philanthropiques, altruistes. C'était des larmes sur un chagrin qui n'était pas le mien. C'est des larmes compassionnelles. C'est ça qu'on a.
Et des larmes partagées avec d'autres adultes.
Et ça a été très surprenant. Parce qu'au début, dans ma bêtise d'enfant de 11 ans, je pensais que j'étais le seul à pleurer. Et quand je me suis relevé, j'ai vu qu'il n'y avait que des yeux rouges autour de moi. J'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est vrai que maman m'attend à la sortie. Et elle me voit dans cet état. Elle me dit, ça t'a plu? Je lui dis, oui, j'ai adoré. Je lui dis, je voudrais être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Ouais. Et elle me dit, tu voudrais être acteur comme Jean Marais, parce qu'elle était folle de Jean Marais.
C'est peut-être votre père, Jean Marais.
Il y en a qui fait non,
je crois pas.
Bon, c'est jamais. Hein.
Ah, merci Léla.
Franchement, voilà. Malentendu. Hein.
Oui, et moi je regarde. Et moi je regarde l'affiche et je dis non, je voudrais faire Edmond Rostand. Et ça, c'est une anecdote qu'elle m'a rappelée pour ma première pièce, à la Nuit de Valonne, qui était la Comédie des Champs-Élysées avec Micheline Prel et Daniel Lebrun, Mathieu Carrière. Elle m'a rappelé cette histoire dont je ne me souvenais plus. Donc ça vient de loin.
Années 70, 75 même, vous écoutiez.
Des pubs pour parfum.
Non.
Diams.
Non.
Jean Marais.
Non, il était au téléphone en train d'attendre pour parler à un conseiller. Please, hold
la CPAM ouvre entre 8
heures. Oh non.
Isuito.
Yachtu.
Dans un instant, nous vous mettrons en contact avec votre interlocuteur.
De toute façon, là, vous êtes déjà guéri quand vous écoutez ça.
Mozart, oui.
Voilà, Laudate Dominum de Mozart. Oui, moi,
que vous avez découvert à quel âge? À 15 ans?
À 15 ans, oui. Enfin, je faisais déjà du piano, je faisais déjà de la musique, mais j'avais... Vous savez, parfois, on entend les choses sans les entendre. C'est-à-dire, je n'avais pas entendu le génie de Mozart, j'avais entendu de la musique de Mozart. Et à 15 ans, je vis une période extrêmement difficile, comme souvent à 15 ans, avec une peur de la vie et une volonté de la fuir. Enfin, c'était cette tentative suicidaire qu'on peut avoir à 15 ans. Et fort heureusement, un jour, une professeure de musique emmène 4 élèves à l'Opéra de Lyon et j'entends Mozart chanté par une femme. Et je suis guéri. Je suis guéri par la beauté. Voilà, la guérison par la beauté. Ça, c'est une grande thérapie. Et je me suis dit, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reste. Hein. Et je me dis, toutes les belles choses que je ne découvrirai pas, parce qu'un jour, je ne serai plus là, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression d'être sur Terre pour jouir de la beauté du monde.
Et louer le Seigneur, dans le livre, vous ne parlez pas beaucoup de Dieu?
Non, parce que ça ne m'a pas aidé.
Ouais.
On croit souvent que les gens qui sont croyants supportent la mort plus facilement, la mort de leurs proches,
ce que vous écrivez,
et pas du tout. Ça m'a apporté aucun réconfort. C'est parce que le chagrin, on l'éprouve ici, maintenant. Et ça n'apporte rien. Et je dirais même que ça ajoute des blessures, voire des poignards supplémentaires. Parce que moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand ma sœur m'apprend que maman a disparu, je me dis, où elle est? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'elle se sent seule? Est-ce qu'elle a peur?
C'est pas votre première pensée. Votre pensée, c'est pourquoi je n'ai pas été là. Ouais, pourquoi j'étais pas au courant.
Et de pas l'avoir senti.
Non, c'est la première pensée. C'était vraiment ce que d'accord. je vous dis. Et la deuxième chose, c'était.
C'était pas ça que vous avez pensé.
Je sais très bien ce que vous pensez.
Non, c'est peut-être dans le livre, on a l'impression que. Mais ma première pensée, ça a été ça. Je ne peux plus l'aider. Je peux plus rien faire pour elle. Faudrait que je l'accompagne. Ça, c'est la première pensée. En fait, j'ai pas pensé à moi. Je pensais à elle. Et puis, et donc ça, c'est avec un croyant qui peut penser. Ça n'arrange pas les choses. Hein. Et toujours aujourd'hui, je pense ça. Je me dis comment ça se passe.
En 1990, vous écoutiez Pauline Esther.
Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor.
Pourquoi cette chanson?
Pour moi, ça représente ces années-là où je m'amusais beaucoup, je sortais beaucoup, je draguais beaucoup, je flirtais beaucoup. Voilà, donc c'est la joie de vivre.
L'insouciance des années 90.
Voilà.
Et vous faites une rencontre de taille, c'est Edwige Feuillère.
Oui.
Vous lui écrivez, en fait, vous lui envoyez une pièce de théâtre.
Oui.
Et c'est elle qui va être un peu votre fée et vous ouvrir toutes les portes.
Incroyable. Je lui envoie par courrier ma première pièce, La Nuit de Valogne. Et elle me répond 15 jours plus tard en me disant, vous êtes un magnifique auteur. Faut travailler parce que vous avez trop de facilité. Mais je m'occupe de vous. Elle m'a trouvé un agent, elle a contacté la Comédie des Champs-Élysées et j'ai été joué par Micheline Prel, Daniel Lebrun et Mathieu Carrière. Et c'était le début. Et on a eu une grande amitié qui a duré jusqu'à sa mort.
Et pourquoi elle a fait ça pour vous, d'après vous?
Un jour, je lui ai demandé. Elle m'a répondu parce que c'était vous. Voilà. Non, c'était... Un jour, elle m'a dit aussi... les auteurs ont tellement fait pour moi qu'il était bien temps que je fasse quelque chose pour eux. Bah, je lui dis déjà, vous les avez joués. C'est quand même elle qui avait créé Cocteau, Giraudoux, Claudel. Mais elle dit, oui, mais vous, je pourrais pas vous jouer. Alors, je vous aurais fait entrer dans le monde du théâtre.
C'est un clin d'œil à Montaigne et la Boétie, parce que c'était vous?
Parce que c'était vous, oui. C'est beau?
Ouais. En 96, vous écoutiez. Là, cette musique vous renvoie quelle
image? 1996, Théâtre Marigny, Alain Delon, Francis Huster, Variation énigmatique. Cette pièce s'appelle Enigma, Variations. Je m'étais inspiré d'elle pour écrire Variation énigmatique. Ça me touche beaucoup d'y penser en ce moment, puisque je sais qu'il n'est pas bien du tout, Alain Delon. Et
vous avez encore des rapports amicaux avec lui?
On a des rapports, oui. Et je sais donc par Anouchka que c'est difficile. Mais moi, c'est un grand moment de ma vie parce que j'avais l'impression de traverser l'écran. J'étais en face de quelqu'un que j'avais toujours vu depuis mon enfance, dans les films, etc. Et tout d'un coup, je le rencontre, il va jouer ma pièce.
Mais alors, pardon, vous dites, pour en revenir à Alain Delon, que je ne sais pas quel est le degré de votre amitié, mais si vous avez des nouvelles par sa fille, comme on parlait tout à l'heure du Carpe Diem de votre journal, pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Pourquoi ne pas dire, il faut qu'on passe quelques...
Ça n'a pas été facile.
Aujourd'hui. Oui, mais là, aujourd'hui, de se dire, profitons de chaque seconde.
Oui, vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Mais rien n'est facile dans la relation avec un homme comme ça. Puis c'est un peu lui qui donne toujours le tempo de la relation. Il y a des gens, il faut accepter que ça soit eux qui soient, je dirais, le pôle dominant d'une relation. Je suis pas à l'aise dans ce genre de relation, mais ça n'empêche pas l'affection.
Oui, parce qu'il a, quand vous avez travaillé ensemble, même sur le texte, il fallait batailler avec Alain Delon.
Non, oh non, c'est une anecdote, parce qu'en fait, ça qu'il représente bien. Dans la pièce, je lui faisais dire qu'il aimait les chats parce qu'il aimait les personnalités énigmatiques. Et il m'a juste dit, je déteste les chats. Je n'aime que les chiens. S'il vous plaît, je vais jouer la pièce pendant des centaines de fois. Est-ce qu'on peut mettre chien? J'ai accepté. C'est la seule concession qu'il m'a demandé. Mais voilà, c'est pas grave. Il est très respectueux des auteurs.
Oui.
En 2004, vous écoutiez...
C'est sorti en 2004?
Tu peux écouter des musiques que tu veux quand tu veux, tu sais. Mais c'est surtout la bande originale du film, c'est ça? Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Camp.
Oui. Voilà, c'est le film qui m'avait fait rencontrer Omar Sharif. Et alors là, j'avais eu l'admiration absolue de ma mère. Parce qu'avant, il y avait eu Delon, Belmondo, etc. Mais bon, elle trouvait ça normal. Mais le jour où je lui dis, on tourne Monsieur Ibrahim avec Omar Sharif, alors là, j'étais le fils le plus génial qu'il y avait sur Terre, parce qu'elle était amoureuse d'Omar Sharif.
Et
Elle a bon goût. Si je peux me permettre, il y a une phrase que m'a dite un jour Omar Sharif.
Et le père d'Éric Emmanuel Cuisine.
Pas du tout. Mais qui va.
Tu es mon fils, Nagui.
Mais qui va rejoindre.
Le
qui
5 et non partant.
Qui va rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure sur, à propos du journal d'un amour perdu. Je lui ai demandé comment il faisait pour être toujours aussi souriant, charmeur, avec des ondes toujours aussi positives. Et il m'a dit : je vis chaque jour comme si c'était le dernier.
Ah oui. Ah, c'est bien. Moi, je pense exactement l'inverse. Vivre chaque jour comme si c'était le premier.
Et justement, un comédien comme Omar Sharif, là aussi, on l'a dit, à une sorte de légende. Vous l'avez côtoyé un petit peu, même si le film, c'est François Dupeyron qui l'a réalisé.
J'allais sur tournage. Ouais, ouais. Et puis après, on a fait la promotion à l'étranger ensemble. Oui, c'est un seigneur. Il avait une classe folle. Je me souviens, oui, il avait juste un défaut, c'est qu'il avait ce qu'on appelait le quart d'heure d'Omar, c'est-à-dire entre minuit et minuit et quart, il était très agressif, et chacun prenait pour son compte.
Entre minuit et minuit et quart.
Pourquoi ? Ouais. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un peu ça, j'ai toujours pensé à ça. On avait tous noté ça, et même...
En même temps, ça l'avantage,
t'es prévenu. En même temps, si t'es charmant toute la journée, t'as qu'un quart d'heure où t'es chiant, tu as touché.
Et je me souviens même...
C'est pile l'inverse de Morin. Mais ça pas que entre minuit et minuit et quart.
C'est vrai, c'est vrai. Même au Festival de Venise, il venait de recevoir le Lion d'Or, et la salle avait fait une standing ovation de 20 minutes. Moi, j'étais à côté de lui, j'en pleurais tellement c'était émouvant. Ce jour-là où on fait la rétrospective de sa carrière, il a son Lion d'Or, on dîne le soir au Lido.
Les Gremlins, faut pas leur donner à manger.
Voilà. Moi, j'étais à côté de lui, mais par prudence, à minuit. Je me suis dit, tiens, et je me suis tourné vers un critique de cinéma en disant, ça vous ferait plaisir d'être à côté de Mars? Il en a pris plein la tronche.
Éric Emmanuel Schmitt signe le journal d'un amour perdu chez Albin Michel, autour de la mort, autour du deuil, mais ode à la vie aussi, une sorte de carpe diem. On a demandé à Christophe Fauré, merci Christophe de venir à ce micro.
Merci à vous.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Vivre le deuil au jour le jour, qui a été réédité chez Albin Michel en 2012.
En 2018
aussi. Il n'arrête pas d'être réédité. Parce que la première édition datait de quand?
1995.
Ah, tu vois, t'étais pas loin.
Donc c'est la quatrième réécriture.
Est-ce que, comme le dit Éric Emmanuel Schmitt, c'est un travail, entre guillemets, quotidien, le deuil?
C'est un travail quotidien. Il faut vraiment sortir de l'idée qu'on a du deuil comme un oubli, tourner la page, passer à autre chose. Non, imaginez qu'il y a une blessure profonde sur le corps physique. Il y a un processus intelligent, naturel, spontané de notre corps pour cicatriser cette plaie. Quand on perd un être qu'on aime, il y a cette même blessure mais qui est psychique. Il y a ce même processus intelligent qui échappe à la volonté, au contrôle, qui est de cicatriser cette plaie. Donc il y aura toujours une cicatrice et toujours la marque. Donc vraiment, quand les gens disent deuil égale oubli, passer à autre chose, c'est complètement faux. C'est au contraire respecter un processus qui œuvre pour notre intégrité à la fois physique et psychique.
Est-ce que le faire son deuil,
ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que faire son deuil suppose qu'on démarre quelque chose, qu'il y a un milieu, que ça se termine. Ça se termine jamais, un deuil, parce que le lien qu'on a avec la personne qu'on a aimée, il perdure jusqu'à notre propre dernier souffle. Faire son deuil, ce qui ne veut rien dire, et traverser ce chemin d'apaisement progressivement de cette douleur, donc Éric Emmanuel nous parle très bien, c'est véritablement ça, le chemin du deuil. Mais c'est le manque persiste à tout jamais. Le manque, c'est vraiment le fait de pleurer 10 ans, 15 ans, 20 ans après la disparition de quelqu'un qu'on a aimé, n'est pas le signe que le, entre guillemets, deuil n'est pas fait. C'est simplement le constat qu'on a aimé cette personne et que à cet instant donné, un mariage d'un enfant ou un Noël ou n'importe quoi, cette personne extérieure nous manque. Il y a vraiment le parent extérieur, celui que, qui nous prend dans les bras et celui avec qui on s'engueule parfois.
Il ne faut pas le faire
intérieur.
Non, mais donc le faire le deuil, ça veut dire oublier.
Oui, c'est ça. C'est pas ça le deuil.
Que l'on a aimé quelqu'un.
C'est passer une relation extérieure objective avec la personne qu'on aime à une relation intérieure subjective qui perdure toute une vie. Il y a le parent extérieur et le parent intérieur. Et quand on peut avoir 80 ans et avoir perdu sa maman 30 ans avant, il y a ce lien qui se nourrit encore et encore, jour après jour. Et donc, il y a le manque extérieur, mais il y a une continuité de la relation, parfois extrêmement intime, pendant jusqu'au bout de sa propre vie.
Quand c'est la mort de quelqu'un qu'on déteste, ça nous promet une joie éternelle.
non, mais c'est vrai que étonnamment, étonnamment,
il faut en parler.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que le processus de deuil, il s'enclenche en fonction de la tonalité émotionnelle du deuil. Elle est directement corrélée à la tonalité émotionnelle de la relation.
Non, parce que je trouve Nagui un peu pâle en ce moment, et je m'apprête à avoir beaucoup de joie.
Non, mais c'est vrai que ce processus a tendance quand même à pacifier le lien qu'on avait extérieur qu'on avait avec la personne. Il y a quelque chose qui est intelligent en nous, qui tend à pacifier. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais il y a quelque chose qui, après plusieurs années...
La maladie, c'est le cas notamment avec le papa d'Éric Emmanuel Schmitt, qui a été hémiplégique et qui a eu une attaque cérébrale qui l'a rendu hémiplégique pendant 18 ans.
Oui.
Il a fallu le soigner, l'accompagner. Et c'est vrai que cette maladie-là, cette blessure, va changer votre regard sur votre père aussi.
Oui. Dans des cas de grave maladie.
Et les rapports avec
lui. Parce que lui, il a su transformer cette horrible épreuve. Alors, vous imaginez un homme sportif qui, tout d'un coup, est dans la prison de son corps paralysé à 68 ans jusqu'à 80, je ne sais plus combien.
Qu'il faut nourrir, qu'il faut laver, qu'il faut aider.
Ouais, tout. Ce qu'a fait ma mère.
Ouais.
Lui, il a transformé.
En disant, je ne peux pas me permettre d'être malade ou de ne pas être là
oui,
pour
c'est
lui.
Ça. Moi, c'est ça qui me faisait peur. Je me disais, il va l'entraîner dans la tombe avec elle. Ouais. Parce que lui, il lui a offert une vieillesse horrible. Il en était conscient. Il était torturé par ça, d'ailleurs. Et, on perd les êtres deux fois. Quand il y a des grandes maladies comme ça, on les perd quand la maladie tout d'un coup les rend différents, et puis après on les perd pour de bon.
C'est un petit deuil déjà, ce que je voulais dire à Christophe Auré. Cette maladie, c'est le début du deuil qui fait changer le regard.
C'est le changement du regard. Dès qu'il y a un changement dans le lien émotionnel, il y a forcément quelque chose du processus de cicatrisation de ce qui a été enlevé, retiré.
Comme quand on apprend qu'un ami a une maladie grave, c'est que d'un coup on sent la fragilité de la vie.
Voilà, et on pressent qu'il y a un temps compté à éventuellement réparer, pardonner ou se faire pardonner ce qui est... Enfin, réparer la relation, si cela peut l'être.
Oui. Moi, ce que j'ai noté dans le chemin du deuil, en tout cas, qui est un chemin sans fin, vous avez parfaitement raison, c'est que quand même, il y a un moment où on cesse de voir uniquement dans le monde ce qui nous manque. Parce qu'il y a un temps où on n'est que tristesse. On ne voit que dans le monde l'absent ou l'absente. Et puis, on devient nostalgique et mélancolique. Moi, je suis pas du tout un nostalgique, un mélancolique. Je déteste occulter le présent par le passé. Or, moi, je me réfugiais dans mon passé parce qu'au moins, il y était. Et avec le double tranchant du souvenir, parce que le souvenir, c'est à la fois la présence de l'autre et l'absence. Donc, je me réfugiais dans ma tristesse parce que c'était chez moi et parce qu'elle y était.
Alors ça, Christophe, c'est un réflexe souvent de remuer le passé, entre guillemets.
Remuer le passé, on a besoin de remuer le passé. On parlait tout à l'heure d'écrire, de nommer, pas forcément avec des mots, mais vraiment avec peut-être des paroles, je veux dire, mais avec des mots écrits, pour véritablement revisiter la relation. C'est ça aussi le processus de deuil, c'est revisiter la relation que j'ai vécue pour, il y a un objectif, construire en moi une relation intérieure qui va se pérenniser au-delà de la mort de la personne. Parce que ce parent, il a déposé en nous beaucoup de choses de qui on est maintenant. Et on va être en interaction constante toute notre vie avec ça. Le bon et le moins bon, bien sûr. Hein. Et un des enjeux avant le décès de ce parent, c'est de pouvoir pacifier le plus cette relation. Parce que quand ce parent décède, on se retrouve avec travailler uniquement la relation intérieure. Bon, ça se fait par chance. Ça peut se travailler. C'est souvent un travail en psychothérapie. Mais il y a véritablement cet enjeu de qu'est-ce que je fais de ce lien tant qu'il est présent, parce que je vais l'internaliser en moi et je vais devoir me le coltiner, je dirais, tout le reste de ma vie.
Oui, est-ce que de réécrire un livre comme le fait Eric Emmanuel Schmitt sur le décès de sa maman et de ses parents en général et de ceux qui l'aiment, est-ce que ça réveille, à votre avis, des blessures ou au contraire ça les pense ?
Ça les pense et ça met une cohérence. C'est-à-dire qu'en mettant par écrit, on donne une cohérence, on en prend un recul, on voit peut-être le sens de cette relation, ce que ça a voulu dire et comment ça nous a impacté. Et si on ne prend pas ce temps d'écriture ou de dialogue, on ne peut pas voir l'image globale, de voir comment le fait d'avoir aimé cette personne et comment le fait d'avoir été aimé de cette personne a profondément façonné qui je suis. Donc l'écriture et le retour en arrière permet cette vision en avant de soi-même.
Merci Christophe Forest. Je rappelle votre livre « Vivre le deuil au jour le jour », un livre publié en 1994, réédité
14e édition.
En 2012, puis réédité en 2015, puis réédité en 2018, toujours disponible.
Exactement.
Parfait. Merci beaucoup Christophe Forest. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous avez encore la tête dans les deux étoiles de nos champions du monde, puisque vous voulez faire un débriefing de l'émission à Clairefontaine.
Bah oui, parce que parmi tous ceux qui sont autour de la table ce midi, seuls vous, Nagui, Leïla et moi étions à Clairefontaine. Les autres ne savent pas ce qui s'est passé. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais Clairefontaine, ça n'a rien à voir. Je vais donc raconter les coulisses de ce déplacement.
Non,
sexe, supporters, drogue et coupe de cheveux. Ah. Vous saurez tout.
Non, ça sera après les infos de midi. Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Sigrist. Tanguy Pastureau. Jérémy Clavier.
Bonjour.
Tout ce monde pour accueillir Eric et Daniel Schmitt.
Bravo.
Le journal d'un amour perdu chez Albin Michel, Eric Emmanuel Schmitt, autour de votre maman, avec une véritable photo de vous et votre maman, ou c'est
non,
ce
c'est
que
c'est
vous...
une photo qu'on a trouvée qui était encore plus belle que moi, celle que je pouvais avoir, et qui dit tout.
Qui embrasse
s'accroche à sa mère et qui dit attention, n'approchez pas, quoi.
Oui, parce que il y avait un côté fusionnel, vous l'avez gardé pour vous, maman, y compris par rapport au regard des autres. On disait qu'elle était belle, oui.
Moi, je suis un exemple parfait du complexe d'Édipe. Il n'y a pas de problème.
Ah oui, vous vouliez tuer le père et aimer maman.
Non, pas tuer le père.
Vous l'avez écrit.
Je mettais en doute sa véracité.
Ah ouais,
c'est déjà plus intellectualisé, mais ça revient au même, oui.
Non, mais il y a quelques lignes qui peuvent, au début, en tout cas, paraître extrêmement violentes à l'égard de votre père. Et sans révéler la fin du livre, il y a un moment où tout bascule et tout redevient amour.
C'est un livre où je finis par trouver mon père. Et c'est le dernier cadeau de ma mère.
Et la joie, est-ce qu'elle revient ? Attendez que ma joie revienne, est-ce qu'elle est revenue, cette joie ?
Oui, la joie revient, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le manque. Au début, on voit dans le monde que ce qui lui manque, donc il n'y a plus rien dans le monde. Donc le monde est triste. Et puis, parce que on se réfugie dans le souvenir. Et puis il arrive un moment où on voit le monde que les autres voient, mais on le voit enrichi par les 1000 souvenirs qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a plus une page devant soi, on a un millefeuille, on a un vrai roman dessous. Et à ce moment-là, on a enrichi le monde de son passé, de son expérience. Et moi maintenant, autant le jour où ma mère est morte et que je suis redescendu à Lyon m'était intolérable, parce que c'était Lyon sans elle, Lyon avait été décapité. Autant maintenant, quand je retourne à Lyon, je marche dans 50 ans de souvenirs.
Ça s'appelle « Journal d'un amour perdu » chez Albin Michel. Voici Tanguy Pastureau. Donc hier, Tanguy, on va continuer d'en parler, nous étions à Clairefontaine.
Oui, toute l'équipe sauf Daniel Morin, la mascotte de France Inter. C'est comme Donald à Disneyland, sauf que Daniel porte un slip. Parce que lui a passé tellement d'années dans la maison de la radio que s'il en sort, il panique. Alors il vit ici, se fait livrer midi et soir des repas par Deliveroo ou Uber Eats. Hein, ce sont des entreprises qui ont réhabilité et le vélo et l'esclavage. Mais nous qui sommes normaux, quoique Nagui, vos habits permettent-ils réellement de vous classer parmi les gens normaux ? Chez Desigual, on dit de vous, ah oui, quand même, il va loin le mec. Nous sommes partis à Clairefontaine, l'unité de transformation du foot français qui prend des gosses à 11 piges et les transforme en pro, comme à Pattaya, sauf que là on travaille avec les pieds. Alors, ne trompons pas l'auditeur, notre loulou, l'émission entendue hier a été enregistrée, oui, le 15 octobre 2008, grâce à un voyant, Maître Martin, en fait il s'appelle Maître Babacar, mais pour l'assimilation, son fils s'appelle Charles-Henri Diallo, qui il y a 11 ans a lu dans son pubis les noms des chroniqueurs que vous avez en 2019, Nagui. C'est pourquoi nous avons trouvé malsain Cagné sur Stel, 7 ans et demi, amis fassent des blagues sur sa vie sexuelle. Alors attention, l'émission enregistrée, ça ne marche que quand on interview des jeunes. En cas de spécial Édouard Balladur, il faut diffuser immédiatement. Hein. De même, quand à CNews, Jean-Pierre Elkabbach dit parbleu, j'enregistrerai bien l'interview de vendredi pour avoir un week-end de pause à boire du Dubonnet en regardant Antenne 2, on lui dit non, JP, il vaut mieux qu'on y aille de suite. D'ailleurs, je te trouve pas, allez, on diffuse, il est pas arrivé, Jordan Bardella du RN, tant pis, interroge le stagiaire de 3e, ils ont le même âge. Bref, je suis allé moi aussi à Clairefontaine, malgré mon aversion pour le foot, le sport, la sueur et plus globalement pour le corps humain. Et j'ai découvert plein de jeunes gens. J'avais l'impression d'être Marcel Hamon si la chaîne Pee Wee Plus lui avait proposé de visiter ses locaux. J'ai vu Olivier Giroud, un type très croyant qui remerciait Dieu et Jésus. On entendait Didier Deschamps derrière qui disait « Moi alors, pauvre con ?» La salle, blindée de supporters des Bleus, à l'arrivée de Giroud, s'est mise à chanter hein, sur l'air des Jude, des Beatles. Alors je vous la faites avec moi, Nagui. Na 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 Giroud. Voilà. Hein, donc moi qui aime la musique, j'ai failli.
Grand monde radio. Là, mais bon,
moi qui aime la musique, j'ai failli partir. Hein, au sens premier du terme, c'est-à-dire que j'ai senti que j'étais en train de décéder. Des angelots ont commencé à me dire viens là-haut, on a Prince et David Bowie. Oh bah vous avez quoi, Chaim, ça va quoi. Hein. Ensuite est venu Benjamin Pavard, un gosse émouvant. Il avait l'œil humide en parlant de l'amour qu'il portait à ses parents. J'ai eu envie de chialer, mais je me suis dit oh Tanguy, ambiance foot, tu te reprends, t'es un bonhomme. Donc j'ai pensé à des choses joyeuses comme le traité d'Yalta qui a entraîné la fin de la Seconde Guerre ou le fait qu'on ne voit plus trop Pierre Moscovici, et ça m'a passé. Là aussi, quand Pavard est entré, la foule, aussi hystérique qu'un peigne connecté qui verrait arriver Boris Johnson, s'est mise à chanter Benjamin Pavard, je crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard. Et là, pour la première fois, je me suis dit que je m'étais trompé de métier. Oui, est-ce que quand moi j'entre en studio, le public se met à hurler Tanguy Pastureau, à l'heure de l'apéro. Bah oui, il est midi 10, on boit, c'est la France ou quoi? Je l'écoute dans ma radio, il est rigolo, il a une frappe d'asticot, c'est Tanguy Pastureau. Bah non.
Mais c'est parce que comment on dit, Tanguy, les gens vous aiment d'une manière discrète.
Oui, mais ça, mon loup, j'en ai rien à foutre. Demandez à Patrick Bruel s'il préfère la vie qu'il avait en 91 quand les filles lui mettaient la main dans le slip avant de lui dire bonjour, ou celle qu'il a aujourd'hui ou à la sortie de la salle, des mamies lui font signer leur bas de contention. Il va vous répondre 91. Tous, on recherche ça, la frénésie, l'amour inconditionnel et, osons le dire, les gros seins. On veut que tout déborde de tous les côtés. Mais enfin, il n'y a pas un type dans le showbiz qui est pas chaud comme la Bresse. Regardez Tariq Ramadan, il était là, se la joue. Oui, j'étudie les textes, ils sont très intéressants. Regardez, j'ai stabilité la page 36. Et en réalité, c'était un satire. L'ouragan d'Orient a été déclenché à cause des mouvements de son sexe, parce qu'on appelle l'effet papillon. Non mais, même les membres du groupe Trust, qui sont les derniers à porter des bracelets de force en cuir, vous leur dites on vous aime les gars, ils se mettent à chialer. Et s'ils chantent eux, c'est juste parce que personne ne leur a fait de chanson. Donc j'aimerais dire à l'ensemble de mes profs de sport, au collège et au lycée, pardon. Pardon d'avoir pris vos cours à la légère. Si j'avais bossé, j'aurais fait footballeur et j'aurais tout. Du brosouf, une grosse voiture, une coupe de cheveux improbable. Et les gens m'auraient pris au sérieux, même en cas de port d'un pantalon de survette. Et je voudrais dire à monsieur Sanchez, mon prof de français en seconde, je t'emmerde, René. C'est toi qui m'as fait aimer les mots, qui m'a dit vas-y, écris. Au lieu de m'entraîner, j'ai perdu mes soirées à lire, à gratter des idées dans mon petit carnet Moleskine. Je me suis pris pour Rimbaud. Et aujourd'hui, je suis là, trimé pour un public infoutu de me faire une chanson. Mais je vais finir comme Albert Algout, obligé de se taper des chroniqueurs plus jeunes qu'il méprise juste pour subsister. Donc, j'ai un conseil aux collégiens, séchez le français. Jean-Michel Blanquer n'ose pas vous le dire parce qu'il est timoré. Vous voyez, j'utilise des termes comme timoré. Comment vous les cartonnez avec ça? Tu crois qu'un footballeur, il dit timoré? Non. Vous lui dites timoré, il répond, je sais pas, je l'ai pas vu, je crois qu'il est aux toilettes. Ce sont ces gens-là qui ont raison et moi, je me suis trompé. Je t'emmerde, René.
Merci, Tony Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ils sont beaucoup plus intelligents que ce que tu dis. Arrête. On va faire une interro, justement, autour de la culture dans cette deuxième.
Je vais aux toilettes.
Et dernière partie. Et vous pouvez, d'ailleurs, Eric Emmanuel Schmitt, vous aussi, chercher à trouver la bonne réponse. Quelle est la particularité de certaines éditions des livres de George Orwell, l'auteur mythique de 1984, que l'on peut trouver sur Amazon?
Digital.
Pardon ?
Ils sont digitales, tu peux que les avoir.
Il y a une trad particulière, il y a une novlangue, c'est écrit en novlangue.
Tu les commandes et tu les reçois pas.
Non.
Il y a une dédicace particulière, il y a quelque chose.
Livres, qu'est-ce qui pourrait être particulier dans une
édition ? C'est manuscrit reproduit ?
Alors, Ouais.
La première version, une autre version que celle qui a été censurée.
Alors, il y a des.
Ils ont laissé toutes les fautes d'orthographe d'Orwell.
Exactement, ah bon exactement. Sont des, c'est conneries. Non, non, mais non, c'est gangréné en fait par des fautes. Ce sont des copies frauduleuses en fait des œuvres de l'écrivain.
Mais les traductions, anglais. Le texte original.
Texte original avec des fautes rajoutées.
C'est une super bonne affaire.
Non, mais en fait, c'est les livres qu'on vend à 1 euro ou à 50 centimes.
Il y a
parfois
des erreurs même sur le titre du livre.
Comme
une édition, exactement.
Voilà, au lieu d'acheter.
Là, c'est pas les fautes d'Orwell, mais c'est des problèmes de texte, l'édition du texte. Oui,
exactement. Et plus grave encore, une édition de son roman semi-autobiographique
la vie de quelqu'un d'autre.
Dans la Dèche à Paris, à Londres. Exactement. Ouais. Édité par une mystérieuse Moira Propreat, je sais pas, dans les années 2105, comporte elle des changements volontaires. Une édition qui a été modifiée afin d'être plus digeste, paraît-il.
Comme quoi, faut lire les livres.
C'est choquant, quoi. C'est choquant.
Il y a des petites images.
On peut se réjouir, car après 4 ans de travaux, vient de réouvrir pour des visites guidées uniquement le mythique théâtre de Fontainebleau qui se trouve dans le château. Mais qui a financé les travaux qui s'élèvent à 10 millions d'euros ?
C'est pas les
Américains, non.
C'est une star,
Chinois,
c'est un individu,
les Russes,
ou c'est une boîte ?
C'est un pays.
Le Luxembourg.
La Corée.
Non.
L'Arabie Saoudite ?
Le Qatar.
Pas loin, non.
Un pays riche, le Botswana.
Non, mais je prends ta réponse, elle est là. Non, Abu Dhabi.
Abu Dhabi. Émirats.
Grâce à un mécénat de 10 millions d'euros, la salle construite sous le Second Empire a été entièrement restaurée, située dans le château. Il y a maintenant une visite guidée. Si je vous parle de la fille qui devait mourir, je parle de quoi ?
Millennium.
Du Millennium.
Exactement, Millennium.
C'est vrai que c'est un titre à la con. Un
6.
Vous pensez quoi, Éric Emmanuel Schmitt, de cette saga Millennium ?
J'ai pas lu.
Du principe d'un auteur.
C'est un autre auteur.
Ouais, exactement. D'un auteur qui écrit cette saga et qui remporte un succès mondial, qui décède et on récupère, entre guillemets, la marque, la saga pour continuer et peut-être pas avec le même bonheur et la même rigueur.
Oui, non, moi, c'est tout simple. Moi, je pense qu'un artiste, c'est totalement singulier.
Et c'est un business, là.
Et
c'est...
qu'avec lui, ça arrête son œuvre.
Bah, Lucky Luke.
Et les Schtroumpfs,
Sherlock Holmes, Black et Mortimer.
Il y a tellement de cas en bande dessinée où
certains
auteurs ont interdit la suite, là, pour le coup, les Tintins, les choses comme ça. Mais il y a plein de BD. Où
les chroniques de Daniel Morin, quand il sera parti, je reprends le cinéma.
Et tu auras ta chanson.
Quel est le point commun entre Jérémy Seban, dont le livre Le Détachement sort le 4 septembre, et Manuel Valls ?
C'est en catalan.
Pardon ?
C'est en catalan.
Non.
Ils ont perdu toutes les élections ? Non.
Non. Non.
Il met en scène dans son bouquin quelque chose qui se rapproche de l'histoire de Manuel Valls, dans leur point commun à tous les deux.
Ils ont un point commun. Non.
Ils se teignent les cheveux ?
Non.
Ils sont tout petits.
Ils appartiennent à.
Non.
Ils ont un lien de parenté ?
Ils ont un lien.
Ils sont.
Ils ont été amoureux d'une violoniste ?
Non.
Mariés. Ils sont mariés ?
Non.
Ils sont
un point commun entre
frères jumeaux,
comment, mais ils ne savent pas.
Entre l'auteur d'un roman et un homme politique ?
Mais c'est celui qui lui écrit d'habitude.
Exactement.
Je voulais pas dire.
Exactement.
C'était son ghostwriter.
Plume. On vous a demandé de faire ça, Éric Emmanuel Schmitt.
Non, on m'a proposé des nègres, par contre.
Que vous n'écriviez pas, que d'autres écrivent pour vous et que l'on publie sous votre nom.
Oui, un jour un éditeur m'a dit, vous savez, votre nom c'est une marque, alors si vous avez des problèmes d'inspiration, vous donnez une idée et puis quelqu'un se chargera de le faire. Ça m'a à la fois ravi et vexé.
Mais ça
ravi parce que je me suis dit, bon, finalement je dois représenter quelque chose. Ouais. Et vexé parce que je me suis dit, mais attends, il n'y a aucun couillon qui pourra écrire comme moi j'ai écrit. Voilà.
Mais, et alors vous qui êtes au Goncourt, savez-vous le 9 octobre prochain qui signe le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites ? C'est le titre d'un livre qui va sortir qui s'appelle Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites. Ah. Quel grand auteur signe ?
Ah non, je ne sais pas.
Mort.
Mort.
Manuel Valls ?
Non. Dormesson.
Non.
Le mystérieux.
Grand écrivain classique français. Recueil de 9 textes.
Hugo ?
Baudelaire, du 20e siècle, Camus,
Balzac, on va tous les faire.
Stendhal,
Mérimée.
Ah bon ? Allez au 19e.
Hugo, Balzac, on l'a dit.
Non, continuez votre recherche.
19e, ça peut être qui, Flaubert, Maupassant.
Continuez votre recherche.
19e.
Ah, Proust, Proust, Proust. Neuf textes rédigés alors que Proust était âgé d'une vingtaine d'années. Aurait dû figurer dans le premier livre de l'écrivain, Les plaisirs et les jours, mais finalement avait été écarté par l'auteur. Est-ce que vous allez vous précipiter dessus? Est-ce que êtes proustien?
Ah, moi je suis proustien. Hein. Et en plus, on fête cette année le centenaire du prix Goncourt donné à Proust en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et figurez-vous qu'à l'époque, c'était très très courageux parce qu'on sortait de la guerre. Il y avait plein de récits sur la guerre. Il y avait un certain Roland d'Orgelès qui avait écrit
Les Croix de Bois.
Exactement. Dont toute la critique avait dit que c'était lui qui allait avoir le Goncourt. Et tout d'un coup, le jury Goncourt donne le prix à Proust. Et c'est un scandale dans la presse. Parce qu'on dit, on a donné le prix à un vieux, parce qu'il avait 50 ans. Mmh. On a donné le prix à un auteur de droite qui nous parle des marquises et des comtesses du Faubourg Saint-Germain. Et donc, la presse a détesté Proust. Mais en même temps, c'est ce qu'il a fait connaître.
Et bizarrement, il y a un antisémite qui a voté pour lui, c'était Léon Daudet.
Exactement.
Et alors, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ces textes-là sortent alors qu'il n'avait pas donné son accord. Donc, c'est terrible, en fait. Quand t'es un auteur aussi, tes textes,
mais comme
il faut
ça
les brûler.
Comme ça arrive pour des chanteurs avec des chansons
brûler.
Enregistrées.
Oui,
avec des tweets.
Qu'est-ce que vous faites des textes que vous ne publiez
pas? Moi, je n'ai pas encore brûlé, mais de temps en temps, je me dis, il faut vraiment que je brûle tout ce que je n'ai pas publié.
Parce que attendez un peu. Après, il restera des traces numériques. Si
relisez-les.
J'aime bien le attendez, parce que ça m'est arrivé avec la Bibliothèque nationale.
Brûler la Bibliothèque nationale?
Non. Le département des manuscrits.
Qu'on sait pas, hein.
Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, depuis des années, me demande d'avoir certains de mes manuscrits, parce que j'écris parfois à la main. Et ma famille m'a dit non. On les garde, on les vendra après ta mort.
L'amour. Justement, pour en revenir à votre livre, Journal d'un amour perdu, chez Albin Michel, pourquoi avoir choisi cette forme dont on parlait tout à l'heure avec Albert, de quelques pensées comme ça, de quelques sentences au milieu du roman?
C'était ce que me permettait le journal, parce qu'un journal, c'est autant une écriture romanesque que une pensée qu'on dépose. Et moi, vous savez, je suis philosophe de formation. Et enfin, ça me permettait de ramasser ma pensée comme ça, en une phrase courte. Parce que pour moi, le rôle d'un écrivain, c'est de mettre en mots ce que tout un chacun ressent. Et une fois qu'on l'a accroché aux mots, on peut peut-être aller d'ailleurs, on peut plonger à l'intérieur de soi et faire un vrai travail.
À la façon d'un proverbe aussi.
Oui,
façon
souvent.
Comme ça, d'un conseil de vie ou de réflexion. Les pensées ramassées, j'aime bien. Il y en a un qui va étaler ses pensées maintenant, c'est Frédéric Siglis.
Qui va être ramassé.
Ramasse ici. Ce matin, quand j'ai quitté ma maison, ma compagne m'a demandé « Mais tu vas où ?»« Bah, je vais à la bande originale, tu sais bien que j'ai une chronique le vendredi. » Et là, elle me répond un truc que tu veux surtout pas entendre, encore moins quand tu fais l'amour, c'est « Ah, t'y es encore ?» T'y es encore. Mais c'est horrible de dire ça, t'y es encore.
Bah, surtout quand tu fais l'amour. Oui.
Et là, elle a bien dû sentir que ça m'avait blessé. Hein, faut dire que les larmes, c'est un bon indicateur dans ces moments-là. Et elle a essayé de se rattraper. Elle a dit non, mais je voulais pas te faire de la peine. C'est juste que si on récapitule, le lundi maintenant, c'est cette fille qui parle souvent d'art contemporain et du BHV. Marina. Oui, Marina. D'ailleurs, faudrait que tu m'expliques comment elle fait pour aller si souvent au BHV avec son salaire de chroniqueuse. Parce que soit elle a mieux négocié que toi, soit c'est toi qui me cache des choses. Le mardi, je crois, c'est Agnès Tourtel, Urstel. Je sais pas, je bois pas d'alcool. Mercredi, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Non, c'est Guillermo. Le mercredi, c'est Guillermo Guy. Ça va faire 2 ans qu'il est parti, Pierre-Emmanuel Barré. T'arrêtes avec ça, ça les énerve. Ah, je me disais aussi, je trouvais ça un peu lourd qu'il fasse toutes ses chroniques avec l'accent belge. Mais en fait, quand tu me dis ça, ma chérie, je me rends compte que t'es pas une super auditrice de la bande originale. Bah, excuse-moi, il y en a qui travaillent. Le jeudi, d'habitude, c'est le grand, là. Tu sais, le blond qui chante, on dirait Stéphane Rousseau avec la coupe de Son Goku. Jérémy Crédville. Oui, lui. Et le vendredi, c'est celui qui parle de camping et d'endives aux jambons. Je l'aime bien, lui. On dirait Raphaël Mizrahi qui aurait écrit Le Guide du Retard. Alexis quelque chose. Alexis le Rossignol. Voilà. Bon, bah, j'ai fait la semaine. Il te reste quoi, à toi? Bah, le vendredi, je remplace Daniel Morin à midi 20. Parce qu'il est pas là, le vendredi, Daniel Morin? Si, il est là. Mais il est en grève. Il est pas. Enfin, il me regarde.
C'est le champion, quoi, le mec.
Ok.
C'est le champion du monde.
Ok, donc ce que t'es en train de me dire, c'est que ton employeur, en fait, c'est pas France Inter, c'est Daniel Morin.
C'est vrai.
Et là, tout d'un coup, ça m'a frappé. Mais elle a raison. Qu'est-ce que je fous là? Vous me gardez pourquoi, en fait? Je suis quoi pour vous? Une bonne action? C'est déductible des impôts? Nagui, le week-end, c'est comme ça qu'on vous présente? Oh, bah, il est généreux, Nagui. C'est l'homme du Téléthon, du Sidaction et des chroniques de Frédéric Segris. Et dites pas le contraire. Vous êtes allé à Clairefontaine, vous m'avez même pas invité. Et me dites pas, c'était oh, pas mais vendredi. C'est parce qu'on sait que t'aimes pas le foot. Vous, Nagui, vous aimez pas lire et pourtant on invite tout le temps des écrivains. En plus, moi, vous me mettez en face d'Olivier Giroud. Ben, j'aurais été excité comme un pou devant les cheveux de Michel Houellebecq, hein. J'aurais fait semblant. J'aurais dit, oh, j'adore tous vos disques, surtout votre duo avec Booba. En plus, je crois qu'il a doublé le bouffon vert dans Spider-Man. Donc, on avait carrément un point commun, oui, tu vois. J'aurais pu parler de trucs. Avec Didier Deschamps, j'aurais parlé de FIFA sur PS4, d'Inazuma Eleven sur Nintendo 3DS ou d'Olivier Tom. Est-ce que l'équipe de France 98 est plus forte que la new team d'Olivier Hatton? Voilà une question qui aurait vraiment intéressé les Français. Mais pour ça, il aurait fallu inviter Frédéric. Est-ce qu'on invite Frédéric à voir des millionnaires qui courent en short devant des smicards? Non! En plus, est-ce que vous vous rendez compte, Nagui, de la difficulté de faire des chroniques à midi 20 un vendredi? Pourquoi? Sur une antenne où il y a déjà 25 humoristes qui ont ouvert leur bouche avant que j'arrive? Faire une chronique à midi 20 un vendredi, c'est faire le marché de Rungis à 13h. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, moi, je parlais de ma vie de daron banlieusard. Le problème, c'est que depuis ma chronique sur le rat dans le compost, plus personne veut venir manger à la maison. Les instituteurs et les institutrices de mes enfants, et tout est vrai, changent de trottoir quand ils me voient. La maire de ma ville m'a refusé un permis de construire alors que j'avais même rien demandé. Elle m'a dit, c'est préventif qu'elle a dit. Tous mes voisins pensent que je suis un véritable connard. Tout ça à cause de la chronique de vendredi midi 20. Alors franchement, vous avez de la chance que mon besoin de gagner ma vie soit plus important que mon estime de soi. Parce que sinon, ben ça fait du bien de vous retrouver et vivement la semaine prochaine.
Ça fait peur. Merci Frédéric.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Et ce soir, on te retrouve, Fred Sigrist, à Saint-Malo, dans le cadre du festival La Route du Rire.
En spectacle au théâtre Rive Gauche, Eric Emmanuel Schmitt avec Nicolas Stavy. Ça a commencé fin août et ça se poursuivra jusqu'au 29 septembre. 30 dates exceptionnelles. Et puis ensuite, il y aura une tournée en octobre. Pour en revenir au théâtre Rive Gauche, à partir du 9 octobre, ça sera la famille Ortiz de Jean-Philippe Daguerre. Puis, à partir du 19 octobre, Adieu Monsieur Hoffmann en reprise. Oui. Signé toujours par Jean-Philippe Daguerre.
Récompensé aux Molières.
Oui. Exactement. Journal d'un amour perdu. Qu'avez-vous retenu, Jérémy Crédville, de ce que l'on a dit du livre d'Éric Emmanuel Schmitt?
Et moi, j'ai retenu aussi dans le livre surtout que le corps. Ben évidemment, ben oui. Que le corps retient des choses du deuil aussi. Par exemple, quand vous aviez mal au genou, c'est parce que votre médecin vous disait que vous aviez du mal à avancer. Oui. En fait, le fait que le deuil a un impact sur le corps, pas que sur le mental, mais sur le corps, ça m'a marqué.
Tanguy Passureau.
Moi, j'ai retenu de l'émission qu'il y a un très bon livre sur le deuil qui est réédité chaque année depuis 1976 et qu'il va falloir un moment que je le lise quand même. Parce que...
Faudrait que c'est Christ.
Moi, j'ai retenu qu'Éric Emmanuel Schmitt accepte tout quand c'est demandé avec douceur. Donc, mon petit Éric, j'aimerais bien jouer dans une de vos pièces.
Albert Algou.
Mon petit lapin bleu.
Moi, je retiens, entre autres...
Oui, mon petit lapin bleu.
Ouais, entre autres, ce que Éric Emmanuel... Schmitt dit des animaux, il dit les animaux tirent le meilleur de nous, il y a des très très belles pages sur les animaux.
Mmh. Daniel Morin.
Moi j'en retiens que si vous avez une conversation avec Éric Emmanuel Schmitt et qu'il passe son temps à aller aux toilettes, posez-vous des questions.
Leïla Kadourou.
Et moi je retiens qu'une maman, une mère, elle anticipe aussi son départ et elle laisse des cadeaux comme ça, qu'on va trouver plus tard, bien des années après sa disparition. C'est à nous d'aller les chercher, ces petits messages.
Et vous, Éric Emmanuel Schmitt, qu'aimeriez-vous qu'un lecteur de votre livre vous dise après avoir fermé la dernière page de l'amour perdu, oui, du journal?
Ce que je commence à un peu à entendre, c'est-à-dire que ça fait du bien. Parce que je parle de la peine, mais je parle de la lumière qui vient après la peine.
Des excuses.
Oh là.
Daniel Mort. Il est là, Daniel, le vendredi, c'est incroyable.
Ah oui, je suis venu. Alors, désolé pour les voisins de Leïla Laradine qui ont compris qu'ils pouvaient dire adieu à leur paillasson. Mais attention, elle peut faire bien pire. Elle m'a confié que souvent, elle couchait avec les maris de ses voisines, histoire d'économiser ses sentiments. C'est vous dire. Désolé pour les récoltants de noix de cajou qui nous écoutent et qui auraient aimé, voilà, qu'on témoigne de notre affection pour les défendre. En tout cas, mais comme le dit le proverbe, les amis, pas de doigts, pas d'avocat. Allez, bisous les pauvres. Désolé enfin pour les fidèles auditeurs qui avaient prévu de se faire une bonne poilade du vendredi. Eh bien non, on a préféré parler mort des parents, dictateur turc, antisémitisme, violence familiale. Ouais, parler de Yann Moix, putain. Bon allez, petit cadeau, on se fait un petit moment de déconne juste avant de partir.
Attendez comment je vous reviens, je puisse sourire, laissez-moi.
Bon tant pis, on est maudits, allez, bon week-end.
Mais non, très belle chanson. Merci mille fois, Eric. Merci d'être venu nous présenter Journal d'un amour perdu, Chabat Michel. Bon week-end. Lundi, Anna Girardot et François Civil seront nos invités tout de suite des carrières de campagne de Philippe Bertrand.